Merci, Impact, pour cette louange magnifique. Allons à la prière. Ensemble, nous avons besoin de louer Dieu, mais aussi de prier ensemble où vous soyez. Joignez vos cœurs aux miens et nous allons nous approcher de lui. Seigneur, nous venons devant toi et nous te demandons d'étendre tes mains aujourd'hui. Nous prions pour ceux qui souffrent, ceux qui sont malades, que tu étendes une main de guérison. Nous prions pour ceux qui traversent le deuil, qui ont perdu un être cher. Que tu sois leur réconfort, leur force, que tu les portes, que tu les apaises. Nous prions comme tu nous as enseigné de prier pour les autorités, pour ceux qui gouvernent sur nous, que tu leur donnes sagesse et que tu leur donnes une direction. Seigneur, nous prions pour que les scientifiques puissent trouver les médicaments et les vaccins le plus rapidement possible. Nous prions pour la guérison des multitudes et nous prions aussi, Seigneur, pour ceux qui sont apeurés, ceux qui sont inquiets, ceux qui souffrent de solitude, d'anxiété. Seigneur, conduis-nous dans tes sentiers de paix et aide-nous à briller pour toi, à parler pour toi, à aimer pour toi, à être ton cœur, une représentation de ton cœur et de ton amour pour chaque personne, que personne n'ait oublié devant toi, que ta présence, que ton esprit soit puissamment à l'œuvre aujourd'hui pendant notre célébration ensemble, dans le nom de Jésus. Amen et amen. Quelle joie de vous savoir là avec nous, plusieurs milliers d'entre vous. C'est une fierté particulière pour moi comme pasteur de voir ce groupe Impact, ce leadership magnifique. Vous savez, il y a un grand nombre des pasteurs et leaders maintenant de l'Église La Chapelle. Impact, c'est maintenant des artistes et musiciens de Nouvelle-Ville-Longueuil et aussi de La Chapelle. Mais lorsque je pense à La Chapelle, cette église extraordinaire sur Montréal, un grand nombre des pasteurs et leaders sont issus de Nouvelle-Vie, ont été formés ici avec nous, le pasteur David Poitier, bien sûr, le pasteur, le lead pasteur de l'Église, Jackson Intumba, Jérémy Maillard, Sébastien Korn, Jean-Philippe Baudry, tous des leaders qui ont été formés, qui ont grandi avec nous. Et nous sommes extrêmement fiers de l'œuvre de Dieu sur La Chapelle à Montréal. C'est une église qui donne la vie à Montréal, à Rosemont, dans le Mile End, dans Hunsick bientôt, à Gatineau bientôt, à Québec. Alors, nous bénissons La Chapelle aujourd'hui. Et si vous n'avez jamais été voir ce qui se passe sur leur site, allez-y. Allez prendre un moment pour voir ce qui prend place. Les prédications sont extraordinaires, les messages, la musique, la louange, tout ce qui est présenté va être une grande bénédiction pour vous. Pour nous, à Nouvelle-Vie, ici, tout continue. Grâce à votre support, tout continue. La programmation, on vous invite à la suivre toute la semaine en ligne sur Facebook, sur YouTube, sur live à nouvellevie.com. À tous les matins, le café matinal, la réunion demi-semaine, extra moutarde pour vos enfants, les capsules, le worship, les interviews. Il y a quelque chose pour vous à chaque jour sur notre programmation à Nouvelle-Vie. Tous nos campus, tous nos sites Connect et tous nos départements Connect avec les jeunes, avec les gens, avec les ados, avec les jeunes adultes, avec chaque personne de notre Église pendant toute la semaine. Il y a un impact grandissant et exceptionnel par l'organisme Action Nouvelle-Vie, son volet jeunesse, le 2159. Vous savez, Action Nouvelle-Vie est maintenant à plus de 15 000 personnes desservies par la Banque alimentaire. Et la semaine dernière, c'était très significatif. La Ville de Longueuil a fait un communiqué de presse qui est allé partout dans les médias où ils ont nommé l'impact de l'organisme Action Nouvelle-Vie. Je vous lis un extrait dans le mois dernier. C'est la Ville de Longueuil qui a diffusé partout. Dans le mois dernier, Action Nouvelle-Vie a pratiquement doubler sa distribution de paniers alimentaires alors que plus de 1000 familles en reçoivent chaque semaine. Ces paniers d'une valeur d'environ 250 $ font une réelle différence dans la vie de ces familles. Parmi celles-ci se trouvent des travailleurs ayant perdu leur emploi, des entrepreneurs qui ont été contraints à fermer leur commerce, des aînés et des personnes atteintes de la COVID-19 qui doivent rester à leur domicile. Alors bravo à toute l'équipe de l'organisme Action Nouvelle-Vie que nous soutenons, qui continue un travail extraordinaire auprès de milliers de familles et aussi son volet jeunesse, le 2159, qui en ce moment même est au cœur d'une action pour mettre à l'abri et aider à se remettre sur pied des jeunes femmes qui ont été victimes, qui sont victimes en ce moment d'exploitation sexuelle. Il y a tout un programme avec la police de Longueuil, avec les députés et ministres et tous les intervenants et les intervenants de la ressource. Le 2159 sous Action Nouvelle-Vie sont au cœur de cette démarche pour mettre ces jeunes filles à l'abri. Ça se prend en place dans un hôtel personnel confidentiellement dans le lieu est gardé confidentiel, bien sûr, mais nous célébrons et nous appuyons Action Nouvelle Vie, son volet jeunesse, le 2159, tout ce qui s'accomplit. Et ici, à Nouvelle Vie, à Longueuil, une attention personnalisée, continue et spirituelle par notre fabuleuse équipe d'appeleurs. Je vous dis depuis plusieurs semaines que nous faisons des appels, que nous appelons des gens régulièrement. Regardez maintenant un court vidéo du pasteur Sylvain Tousignan avec deux de nos appeleurs qui nous parlent de cette explosion de connexion par les appeleurs de Nouvelle Vie.
Merci, pasteur Claude. Il y a des milliers d'appels qui sont faits à chaque semaine, d'appels téléphoniques de la part de nos téléphonistes qui représentent environ 220 personnes qui font des appels à près de 6000 personnes à chaque semaine. Alors, c'est extraordinaire. On en a deux parmi nous, donc qui représentent ces 220 téléphonistes. Et Jean-Pierre, j'aimerais que tu puisses nous partager une de tes expériences suite à tes appels.
Oui, j'ai eu une dame qui a été vraiment touchée par mon appel dernièrement. À la fin d'une conversation, elle m'a demandé si je pouvais appeler sa maman pour pouvoir l'encourager. Parce qu'elle me disait que sa mère trouvait vraiment la situation vraiment difficile. C'est une femme qui reste et demeure seule. Fait que quand j'ai appelé sa mère, elle a été vraiment surprise de mon appel, bien sûr, mais tellement reconnaissante puis tellement encouragée. Fait après qu'on ait parlé ensemble puis prié ensemble, elle m'a demandé si c'était possible de la rappeler à toutes les semaines. Fait que j'ai dit certain avec plaisir. Puis quelques semaines après, mon épouse et moi, on a eu vraiment à cœur d'aller leur porter un petit cadeau à elle et sa fille, un petit cadeau d'encouragement. Ils ont été vraiment touchés et contentes de nous voir en personne sur place. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est vraiment cette belle histoire d'amitié qui est en train de se développer entre nous. Puis, en plus, la jeune dame a décidé de joindre à nous dernièrement dans le groupe Maison. Bien, c'est vraiment merveilleux de voir Dieu agir à travers les appels qu'on fait.
Oui, l'impact que des téléphones peuvent avoir dans la vie des gens pour se connecter. De ton côté, Sephora, en tant que téléphoniste, quel est l'impact ou comment tu te sens en tant que téléphoniste d'appeler ces gens-là chaque semaine?
Alors, je me sens tout d'abord très privilégiée. C'est un beau mandat qu'on a de faire ça. Les premières semaines de confinement, quand l'Église a été arrêtée complètement, je me suis sentie inutile. On ne pouvait plus servir à l'Église comme on le fait habituellement. Et quand j'ai commencé mes appels, le premier mercredi, il m'a vraiment bouleversée. Juste le cœur à cœur avec les gens, les entendre partager leur cœur, partager leur prière, pouvoir prier avec eux, ça a vraiment bouleversé le reste de mon confinement. Donc, quand on dit qu'il y a autant de joie à donner qu'à recevoir, c'est encore plus de joie à donner et à servir les gens de cette façon-là.
Wow. Merci à vous deux. Je veux profiter de l'occasion de remercier toutes les équipes de téléphonistes, ces 220 personnes qui se donnent bénévolement pour encourager. Alors, merci à vous deux. Merci à toutes les équipes également. C'est très, très apprécié.
Bye-bye.
Wow, c'est magnifique de voir cet impact de tous nos appeleurs et de voir que les trois C de Nouvelle Vie, connaître, connecter et contribuer, continuent à fond, s'accomplissent et continuent à prendre place d'une manière magnifique, même pendant cette pandémie, grâce à vous. Je vous remercie aussi tous les gens de Nouvelle Vie et ceux de l'extérieur en ce moment qui nous soutiennent. Merci pour votre fidélité et générosité. Vous pouvez donner en ligne de l'une des façons suivantes, par Internet, via votre institution bancaire, via notre site web à l'adresse don.nouvellevie.com, par virement Interact à l'adresse suivante, don@commercialnouvellevie.com. Vous pouvez nous contacter, vous avez besoin d'informations, savoir comment donner, vous nous appelez au téléphone au 450-646-2150 ou vous nous écrivez à l'adresse courriel suivante, don@commercial.nouvellevie.com. Merci d'être si fidèle, d'être si généreux. Et notre message aujourd'hui, c'est le champ de bataille de nos pensées durant la COVID-19, la deuxième partie de ce message que je vais apporter dans un instant. Et juste avant, une petite intro où Jérôme Cantelbert, qui est un de nos leaders jeunes adultes, va interviewer le docteur Ben Aguila, qui a fait son doctorat en neurosciences, mais qui est aussi pasteur des jeunes familles à Nouvelle Vie, co-auteur avec moi de plusieurs de mes livres, membre émérite de l'équipe Média et Com de Nouvelle Vie, qui va nous parler, croyez-le ou non, entre notre cerveau, un texte de l'apôtre Paul et le champ de bataille de nos pensées pendant la COVID-19. On regarde ça ensemble.
Salut Ben! Donc, avant d'être pasteur dans l'équipe Nouvelle Vie, tu as été chercheur en neurosciences. Donc, à 25 ans, tu as obtenu un doctorat en neuro et à 30 ans, tu avais complété un post-doctorat en médecine expérimentale à l'Université McGill. Donc, pour toi, en quoi les neurosciences viennent appuyer ce que dit la Bible?
Inversé. Il y a inversé dans la parole, c'est une lettre de Paul aux Romains qui dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence », comme si Paul disait « C'est encore possible de changer, d'évoluer, de transformer ». Et ça, c'est un concept millénaire, mais depuis une quinzaine d'années maintenant, c'est ce que la neuroscience a démontré. Alors, on pensait que le cerveau adulte était fixe, était stable, bougeait plus, mais les neurosciences, c'est l'étude du cerveau. Ça a permis de démontrer que ton cerveau, même adulte, peut encore évoluer, encore progresser. Ce qu'on appelle la neuroplasticité ou la neurogénèse, c'est des neurones, c'est la capacité qu'on a de créer de nouveaux neurones ou de créer de nouvelles connexions entre nos neurones et même créer des nouveaux chemins de pensée.
Ok, vraiment cool. Donc, mais pour toi, du coup, c'est quoi la clé pour favoriser cette plasticité neuronale, cette capacité à créer de nouveaux neurones?
Alors, pour donner une analogie, c'est bientôt l'été, là. On va retourner dans nos jardins. Pour qu'une plante grandisse, il faut qu'il y ait une bonne terre, il faut qu'il y ait un bon environnement. Alors, notre cerveau est pareil. Notre cerveau a besoin d'un bon environnement pour pouvoir grandir, pour pouvoir s'améliorer, pour créer de nouvelles voies synaptiques, de nouveaux neurones. Et l'environnement, en fait, c'est même pas les gens qui nous parlent, c'est même pas l'extérieur, mais l'environnement, c'est nos pensées. On va bientôt déconfiner, on va bientôt sortir de nos maisons et j'ai très hâte, mais nos pensées vont rester confinées dans notre cerveau. Nos pensées vont rester ici. À moins que tu m'en parles, tes pensées, je peux pas les connaître. À moins que je te parle des miennes, tu connaîtras pas les miennes. Fait que l'environnement, c'est nos pensées. On estime qu'on a environ 26 000 pensées par jour. Qu'on le veuille ou non, à quoi tu penses en ce moment pendant que je te parle, à quoi tu penses pour après. C'est 26 000 pensées et la plupart des pensées sont des pensées négatives. C'est des pensées de mauvaise estime de soi, des pensées par rapport au futur qui nous angoissent, par rapport au passé qu'on regrette. Fait qu'on soit chrétien ou non, l'environnement dans lequel baigne notre cerveau, c'est un environnement où il y a une avalanche de pensées et on va devoir apprendre à trouver l'équilibre entre les mauvaises pensées et les pensées qui nous élèvent, qui nous font grandir.
Et du coup, en conclusion, comment bien gérer nos pensées si toutes nos pensées nous envahissent comme ça? Comment bien les gérer?
Juste de donner en terminant un exemple, une étude, c'est un scientifique français, un neurologue, Louis Maillot. Tu peux voir ses TED Talks sur YouTube. Il a fait une série d'expériences en fait où il enregistre l'activité cérébrale des gens, des adultes en pleine santé et avec des électrodes. Puis tu vois vraiment une avalanche d'activité électrique, une avalanche de pensées. Ça représente ce à quoi toi et moi on dit là tous les jours, des pensées positives, négatives, 26 000 par jour. Et tout d'un coup, en fait, il va mettre de la musique, et une musique très, très calme. Ce n'est pas une expérience chrétienne, hein, c'est une expérience scientifique. Il met de la musique très calme, et là, tout d'un coup, tu vois l'activité cérébrale qui est complètement arrêtée, comme si l'avalanche de pensées s'arrêtait puis qu'il y avait un calme. Alors pour moi, c'est vraiment ça la notion que Paul enseigne aussi. Ne vous inquiétez de rien, mais au contraire, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière, la parole, la méditation, écouter la louange. Aller dans la présence de Dieu, c'est, pour donner une image, c'est vraiment permettre à mon cerveau d'avoir un massage, de relaxer, de pouvoir être plus zen et d'avoir un environnement sain, un environnement plus apaisé pour mon cerveau, pour mes pensées. Et c'est là que je vais permettre à Dieu, laisser Dieu renouveler mes pensées.
Ok, merci Ben, vraiment c'est super intéressant. Et Pasteur Claude va en parler justement par la suite dans son message. Fait que, bonne écoute.
Yes.
Bienvenue à Nouvelle Vie chez vous. Encore ce matin, notre message, le champ de bataille de nos pensées durant la COVID-19, la deuxième partie de ce message. Un grand merci à Jérôme et à Ben pour cette intro très intéressante. Ils représentent, ces deux jeunes hommes représentent toute une génération en ce moment, des dizaines de jeunes leaders, hommes et femmes, bien sûr, qui sont dans la vingtaine, dans la trentaine et qui servent Nouvelle Vie passionnément avec une synergie spirituelle magnifique avec des pasteurs et leaders d'expérience. C'est une philosophie importante dans le leadership de notre Église, de l'Église Nouvelle Vie, cette pensée que ça prend des leaders de toutes les générations pour rejoindre toutes les générations, un alliage intergénérationnel à votre service, un alliage d'enthousiasme, de recherche d'excellence, d'expertise, mais aussi d'expérience, de leaders expérimentés, de connaissances et de cœur, de passion, mais aussi de patience, d'éducation et d'engagement, de formation et de foi. La soif doit être là, mais aussi la solidité qui doit être là, la créativité, mais la consécration, l'innovation, mais aussi l'intentionnalité à marcher ensemble, de génération en génération, de manière intergénérationnelle, dans l'intégrité devant Dieu. Et je remercie le Seigneur pour toute cette équipe et aussi, bien franchement, pour vous. Je m'arrête un moment ce matin simplement comme le pasteur de l'Église Nouvelle Vie pour dire aux gens de Nouvelle Vie à quel point vous me manquez. 10e ou 11e semaine maintenant sans pouvoir être avec vous. Il y a des phrases dans la Bible, il y a des expressions bibliques dans les lettres de l'apôtre Paul, par exemple, qui prennent tout un sens nouveau pour moi. L'apôtre Paul était en confinement loin des Philippiens lorsqu'il leur écrit. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est maintenant renommée dans le monde entier, dans Romains chapitre 1. Et c'est une réalité maintenant plus que jamais qui s'est décuplée, qui s'est multipliée de façon exponentielle. Maintenant, c'est des dizaines de milliers de personnes qui connaissent la foi des gens de l'Église Nouvelle Vie, le message de Nouvelle Vie, le worship qui vient de Nouvelle Vie avec tous ceux qui nous suivent sur les différents médias sociaux. Mais l'apôtre Paul est très personnel avec eux. Il dit, vous savez comment je demande continuellement dans mes prières d'avoir enfin, dans la volonté de Dieu, dans les temps de Dieu, le bonheur d'aller vers vous, d'être avec vous à nouveau. Il était en confinement à Rome, il était loin, il ne pouvait pas être réuni avec eux. Puis il dit, c'est quelque chose, le bonheur d'aller vers vous, c'est quelque chose. J'ai désiré ardemment pouvoir vous voir afin de vous communiquer quelques dons spirituels, que vous soyez affermis, mais aussi que nous soyons encouragés plus tôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous, ensemble par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Et l'apôtre Paul en vient peut-être même à une réalisation. Il dit, je m'ennuie tellement de vous, les Philippiens, j'ai tellement hâte d'être avec vous pour pouvoir vous bénir, pouvoir vous communiquer. Mais aussi, Paul réalise, parce que vous me bénissez, vous m'encouragez. Nous nous encourageons dans notre foi commune. Alors, je veux simplement vous dire à quel point je pense à vous, on prie pour vous, on s'inquiète sur certains d'entre vous, dans le sens qu'on se préoccupe de vous, on pleure avec certains qui vivent des deuils en ce moment, on porte d'autres, on se réjouit avec d'autres dans la victoire et on a tellement hâte d'être ensemble. Et merci Seigneur qu'on puisse l'être ensemble en ce moment, qu'on puisse s'encourager mutuellement. On veut vous équiper à travers cette pandémie à faire face aux deux grandes pandémies. Oui, il y en a deux. Une pandémie physique avec un virus physique dangereux, mais également une pandémie de santé émotionnelle, psychologique, de santé dans nos pensées, sur le champ de bataille des pensées. Comme un homme pense, Proverbe 23, comme un homme pense, un homme ou une femme pense dans son âme, dans ses pensées, dans son esprit, ainsi sera-t-il, ainsi sera-t-elle, ainsi deviendra-t-il. C'est l'importance que la Bible accorde au combat des pensées, à l'aspect mental, l'aspect psychologique, l'aspect d'avoir du champ de bataille. Nos pensées, c'est la tour de contrôle, c'est là que tout se passe, c'est là que toutes les directions sont données. Depuis un mois, j'ai répertorié un mois de cette pandémie, j'ai répertorié près d'une centaine d'articles, de reportages, interviews, radio, télé, en ligne, sur l'aspect mental, sur l'aspect de la santé mentale. Une campagne de sensibilisation de 31 millions de dollars que le gouvernement a mis sur pied, axée sur la pandémie, sur l'aspect de la, psychologique, l'aspect mental, l'aspect émotionnel de la bataille de notre pandémie. Et encore, nous lisions cette semaine qu'on est rendu à près de 20, 18 de la population en ce moment qui vit une détresse psychologique. Pensez-y, c'est 7 fois plus qu'avant, la pandémie. Les semaines passent, les mois passent, et il y a tout ce poids, ce stress, cette anxiété psychologique. Et nous marchons avec le cœur de Dieu qui a un désir pour nous. Le cœur de Dieu, le désir de Dieu pour nous à travers cette pandémie, c'est que chaque personne puisse dire, chaque croyant équipé par lui, puisse dire, je ne me conformerai pas à l'esprit de ce monde, mais je vais plutôt être transformé. Je ne serai pas, je ne me conformerai pas, je serai transformé. Romains chapitre 12 et verset 2, sur le champ de bataille de vos pensées, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence de vos pensées, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. L'esprit de ne pas être conforme au siècle présent. Le siècle présent est agité par la peur, est agité par l'anxiété, par la panique. Un sondage léger, cette semaine, 62 % des Québécois, Québécoises ont très peur à ce que quelqu'un de leur famille, de leur entourage ou eux-mêmes puissent contracter le virus. La santé mentale, la préoccupation pour la santé mentale, elle est partout. On se préoccupe de la santé mentale de nos aînés, bien sûr, de ceux qui sont en confinement. De plus en plus, on pense à l'aspect mental de cette pandémie sur les enfants qui ne vont pas à l'école, l'absence de socialisation à un jeune âge, à long terme, si l'école ne reprend pas en septembre, les effets psychologiques, la santé mentale chez les ados, chez les adolescents, la santé mentale, j'ai eu toutes sortes d'articles sur les artistes, sur les célibataires qui vivent seuls, sur les intervenants que nous saluons, que nous honorons, que nous célébrons, mais les intervenants qui sont en milieu médical en ce moment, médecins, infirmières, préposés auprès des bénéficiaires. Alors, il y a vraiment deux questions très fondamentales, importantes pour chaque croyant qui regarde ce message, que nous vivons ce message ensemble ce matin. Réalisez-vous pleinement que c'est seulement par un renouvellement continuel de vos pensées. Pas seulement une fois, ce n'est pas une œuvre d'hier. Le renouvellement d'hier n'est pas d'utilité aujourd'hui. Renouvellement des pensées, c'est seulement, selon Paul, que par le renouvellement des pensées que nous pouvons amener à discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, même pendant cette pandémie. C'est seulement alors que je suis engagé et intentionnel à ce renouvellement dans mes pensées que je peux discerner et que je peux différencier en ce qui est de Dieu qui ne l'est pas, développer la capacité d'accomplir et de devenir la personne que Dieu veut que je sois, de faire ce qui est juste devant lui. Êtes-vous prêt? C'est la question. Êtes-vous prêt à laisser la parole de Dieu, la parole, ses principes, vous enseigner comment reprendre la maîtrise de vos pensées, comment protéger vos pensées, comment les renouveler, comment en arriver à la guérison? Êtes-vous prêt pendant cette pandémie qui continue à laisser Dieu? Nous sommes-nous prêts à laisser Dieu nous conduire dans la tempête en le laissant lui, avec les yeux sur lui, à travers la tempête et à travers les flots qui viennent frapper sur l'arche de nos vies. J'ai regardé un documentaire récemment, vous savez, il y a plein de trucs qui ont disparu de la télé en ce printemps. Habituellement, je regarde du sport, je regarde plein de choses. Et là, je regarde peut-être des choses que je n'aurais pas regardées auparavant. J'ai regardé un documentaire qui était un institut de recherche avec des ingénieurs, des historiens qui faisaient des recherches sur l'arche de Noé, de la Bible et sur le réalisme des possibilités physiques, la faisabilité de faire que l'arche puisse qu'est-ce qu'il aurait l'air aujourd'hui? Et c'est fascinant parce que la Bible donne plein de détails. La Bible donne des détails, les mesures, les prises, les matériaux, les modes d'assemblage. Et il y a toute une figuration qui est faite selon les enseignements de la Bible où il y a des choses très, très, très spécifiques qui avaient été enseignées. Mais une chose extraordinaire que j'ai entendue et que je savais, que j'avais comme oublié, qui m'est revenue, c'est que l'arche avait toutes ces spécifications très, très, très précises. Mais il n'y avait pas de voile et il n'y avait pas de gouvernail. L'arche n'avait pas de voile, l'arche n'avait pas de gouvernail. Dieu disait, c'est moi qui va devoir vous conduire, c'est pas toi qui va avoir le contrôle. Tes yeux, c'est pas toi qui va avoir le contrôle de la voile, c'est pas toi qui va avoir le contrôle du gouvernail. L'arche est une représentation symbolique, représentation de l'Église, du royaume de Dieu, qu'à travers n'importe quelle tempête, si nos yeux sont sur lui, c'est lui qui a les voiles, c'est lui qui souffle, c'est lui qui donne direction, c'est lui qui a le gouvernail et on va trouver. Il y a quelqu'un qui a dit l'arche, c'est comme l'arche de Noé, c'est comme l'Église. C'est comme une Église chrétienne très imparfaite. L'arche de Noé, c'est comme l'Église. Il y a toutes sortes de bibites là-dedans. Ça sent pas toujours bon, mais c'est la seule chose qui flotte. Vous y penserez, c'est très deep. L'Église, c'est l'arche n'avait ni gouvernail, ni voile, parce que c'est sous la direction de Dieu que ça doit prendre place. Est-ce que je suis prêt, en tant que personne, en chrétien qui est ressuscité avec Christ, de porter mes regards et mes affections vers les choses d'en haut? C'est comme ça que Colossiens l'enseigne. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Colossiens 3, versets 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, fixez vos pensées. C'est vraiment intentionnel, c'est vraiment quelque chose, j'ai le pouvoir de le faire, de fixer, de choisir où je vais fixer mes pensées sur les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous, c'est là que je veux développer mes affections, vers les choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée en Christ et en Dieu. Affectionnez-vous, fixez vos pensées sur les choses d'en haut, parce que vous êtes mort et vous êtes assis avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. C'est une, lorsque la Bible parle avec ce langage, vous êtes mort, ça nous parle de notre pardon, notre position, notre propitiation, que Dieu a pris notre place. C'est en ce moment, je suis vivant sur cette terre, mais la personne que j'étais, la personne qui ne connaissait pas Dieu, l'ennemi de Dieu, la personne séparée de Dieu, la personne ennemie de Dieu, séparée de Dieu, sous jugement de Dieu, cette personne-là est morte alors qu'elle a été clouée à la croix. Je me suis identifié par la foi, j'ai mis ma foi en Jésus-Christ à la croix. Et lorsque Jésus a regardé à la croix, lorsque Dieu a regardé à la croix, il voyait moi avec toutes mes fautes, mes péchés passés. Et lorsque Jésus meurt et ressuscite aujourd'hui, lorsque Dieu regarde à moi, il voit Christ. Et à vous, je suis caché en Christ, littéralement comme dit le texte ici. Nous sommes morts à nos vies passées, mais la chose intéressante, c'est que dans le royaume de Dieu, les morts doivent continuer à mourir. Les morts doivent continuer à mettre à mort. Vous êtes mort à votre vie passée, mais vous devez continuer à vous affectionner, à fixer vos yeux sur les choses d'en haut. Il continue donc, si on regarde la prochaine diapo, il dit, dans le verset précédent, vous êtes mort à votre vie passée, mais maintenant, faites donc mourir. Vous êtes mort, mais continuez à faire mourir les membres qui sont sur la terre. Impudicité, impureté, passion, mauvaise pensée. Chaque action contraire au cœur de Dieu commence avec une pensée. Cupidité, qui est une idolâtrie, parmi lesquelles vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Littéralement, notre position ne remplace pas notre poursuite. J'ai une position devant Dieu, mais je dois poursuivre dans mes pensées les choses d'en haut. Je dois poursuivre mes affections vers les choses d'en haut. Où nous fixons nos pensées va déterminer notre foi et notre paix. C'est dans la mesure où je m'affectionne aux choses d'en haut que je trouve l'accès à son apaisement. Il continue dans ce thème, cette pensée de faites donc mourir. Colossiens 3, la suite, versets 5, 7 et 8. Mais maintenant, pas demain, pas un jour, pas plus tard, pas jamais, maintenant, pas hier, maintenant, renoncez à toutes ces choses, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. L'image de celui qui l'a créé. Celui qui est ressuscité, vous et moi qui sommes ressuscités avec Christ, devons à chaque jour rediriger, refocaliser nos pensées sur les choses d'en haut afin de revêtir l'homme nouveau, afin d'être renouvelé, afin de marcher toujours plus dans la connaissance, dans les pensées, la connaissance vers l'image de celui qui nous a créés. Si tu changes tes pensées, tout est possible. Si tu changes tes pensées, tout est possible dans ta vie, selon l'image de celui qui l'a créé. Alors, c'est la question. Est-ce que tu es prêt à laisser ton Créateur, à laisser Dieu qui t'a créé te donner son modèle, te donner son enseignement, te donner comment t'enseigner sur à quel point tes pensées sont importantes et comment reprendre la victoire dans tes pensées. Est-ce que tu penses connaître plus que Dieu? Est-ce que tu penses que tu peux penser n'importe quoi et que ça va aller, que tu contrôles bien les choses? Est-ce que tu penses que tu connais plus que Dieu? Je dirais de cette façon, est-ce que tu penses que tu peux dire à Dieu, tiens-toi là, de l'autre côté de la clôture, et si j'ai besoin de toi, je t'appellerai. La raison pour laquelle j'utilise cette phrase-là spécifique, c'est qu'elle vient de mon ami Tim Delina, le pasteur Tim Delina, qui était avec son épouse Cindy, Chantal et moi, lorsqu'il venait apporter la parole l'an dernier ici. Pasteur Tim, qui est maintenant le pasteur principal de Times Square Church, il a succédé au pasteur Carter Conlin. On est en contact, on se parle à chaque semaine de ces temps-ci. Il n'arrête pas, toutes les deux, trois jours, il m'écrit pour dire quand est-ce que tu peux venir à New York, quand est-ce que tu vas pouvoir prendre l'avion pour venir. On n'est pas rendu là encore, mais Tim et moi avons voyagé le monde entier ensemble. On a fait des conférences partout dans le monde et il raconte souvent cette anecdote qui m'a marqué, que lorsqu'il était, et à chaque fois qu'il parle de cette dynamique où on pense dire à Dieu plus que lui ce qu'on a besoin, que tu es là Seigneur, tiens-toi l'autre bord de la clôture, je t'appellerai si j'ai besoin de toi, et de ne pas le laisser nous donner son enseignement, sa parole et marcher dans ses voies. Tim raconte que lorsqu'il était papa de son garçon de 7-8 ans, s'est porté volontaire pour être coach, pour être entraîneur de baseball. Tous les jeunes Américains pratiquement ont joué au baseball. Et Tim a joué au baseball au niveau secondaire, comme beaucoup de jeunes Américains. Et il est en train de coacher cette équipe de 7-8 ans. Les petits gars, c'est un sport difficile à apprendre, le baseball, à des jeunes enfants. Et il dit que c'est une pratique qui n'allait pas super bien. Les enfants ne frappaient pas, ne lançaient pas bien. Il y en a qui ne comprenaient même pas le jeu. C'était assez échevelé comme pratique. Et il y a un parent qui est arrivé. Les parents étaient de l'autre côté de la clôture. Puis un des parents qui est arrivé super simplement, puis qui disait, Tim, est-ce que tu voudrais que je t'aide comme assistant coach? Et Tim s'est senti un peu vexé, comme s'il avait perdu le contrôle de la pratique. Il a dit, non, c'est correct, merci, s'il vous plaît, retournez de l'autre côté de la clôture et je vous appellerai si j'ai besoin de vous. Et la pratique a continué, s'est terminée pas mal chaotique. Et en sortant du terrain, le fils de Tim, qui a 7-8 ans à ce moment-là, parlait avec son copain, qui était le fils du monsieur qui avait offert son aide. Et Tim, à son oreille, il écoutait parler, a entendu le garçon dire, mon père, là, il a joué dans le baseball professionnel, il a joué pour les Giants, il a joué pour les Reds de Cincinnati, il a frappé des coups de circuit, il est allé à la partie d'étoiles et il est devenu un coach des coachs. Il a coaché dans la Ligue nationale professionnelle de baseball et Tim lui avait dit, va te tenir de l'autre côté de la clôture puis tu viendras, je t'appellerai si j'ai besoin de toi. Est-ce que je vais être de ceux qui disent à Dieu, tiens-toi de l'autre côté de la clôture, je t'appellerai si j'ai besoin de toi, ou allons-nous dire, Seigneur, aujourd'hui, je veux prendre les décisions. Je veux prendre les décisions qui vont m'amener. Les décisions, parce que le mot crisis en grec, c'est le mot prendre des décisions. Alors, on a vu ensemble trois décisions que je ne peux pas prêcher aujourd'hui, mais que vous allez voir, que vous pouvez aller voir sur le site Internet et partout sur nos Facebook, YouTube, notre chaîne YouTube, notre site Internet. Vous allez avoir le message la semaine dernière, les trois premières décisions de la COVID-19 pour gagner le champ de bataille de nos pensées. Demander, développer et démontrer de la grâce. Débuter et terminer votre journée en nourrissant votre âme. Découvrir à quel point Dieu peut vous aider. Et aujourd'hui, nous attaquons ensemble la quatrième décision. Juste avant, vous dire que le message de la semaine prochaine sera un des plus importants, peut-être, de votre vie. Je veux terminer la troisième partie de ce message. La semaine prochaine, la troisième partie va être sur comment discerner. On va regarder ensemble comment discerner ce qui fait dériver nos pensées et déployer la puissance de Dieu pour diriger nos pensées vers la guérison. Comment discerner ce qui fait dériver nos pensées et déployer la puissance de Dieu pour les diriger vers la guérison. Il y a tous des sphères de nos vies, puis il y a des gens que c'est très grave. Comment ça se fait que je ne suis pas capable? Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas capable d'empêcher mes pensées de dévier, de dériver vers les idéations suicidaires, vers le découragement, vers la jalousie, vers l'amertume, vers l'angoisse, vers l'anxiété, vers la panique? Pourquoi est-ce que je ne suis pas capable de comment discerner qu'est-ce qui fait dériver et comment est-ce que je peux déployer cette puissance de Dieu qui m'est promise pour apprendre à rediriger mes pensées vers la victoire, vers l'apaisement. C'est un message à ne pas manquer. Puis prenez la semaine pour inviter des gens à visionner ce message la semaine prochaine. Aujourd'hui, nous regardons à la quatrième décision. Crisis veut dire décision en tant que crise. La quatrième décision pour gagner le combat. Et la quatrième est très pratique, infiniment pratique aujourd'hui. Je prends la décision de déterminer un déroulement régulier à mes journées et à mes semaines. La quatrième décision pour gagner la paix dans mes pensées, dans le champ de bataille de mes pensées pendant la COVID-19, déterminer un déroulement régulier à vos journées. On va lire ensemble Jacques chapitre 3, les versets 13 et les versets 18. « Lequel d'entre vous est sage et intelligent? qu'il le montre par ses œuvres, par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. L'apôtre Jacques dit il y a une sagesse. Il y a un comportement qui va se manifester par des actions, par une bonne conduite, par des décisions au quotidien. Et il utilise l'image de semer et de récolter. Littéralement, que je sème régulièrement, fidèlement, ce qui semble petit, ce qui semble ne pas donner de résultats immédiats, mais qui demande du temps, mais qui va porter du fruit, un fruit de paix pour moi et pour toute ma famille. L'apôtre Paul appuie cette pensée dans Éphésiens 5, 15 à 16, en disant, « Considérez attentivement comment se déroule votre vie, non comme des insensés, je reprends le même langage que Jacques, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais ou les jours sont difficiles. » À chaque jour, vous allez avoir semé, vous allez semer dans la paix, vous allez vous conduire avec intelligence, ça va amener à des comportements, des changements, des décisions où vous considérez attentivement comment se déroule votre vie, comment se déroulent vos journées, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, que vous puissiez observer, que vous puissiez racheter le temps, utiliser le temps au maximum, car les jours sont difficiles. Dans des jours difficiles, une des choses les plus importantes pour vous et parfois les plus négligées, ça semble très simple, mais c'est infiniment plus profond et puissant que vous pensez, c'est que le rétablissement d'un certain horaire, d'une certaine routine, d'un déroulement régulier à nos journées, le prévisible, le routinier, la régularité est un important réducteur de stress. Lorsqu'on parle de stress, il y a toutes sortes d'études psychologiques là-dessus. Je vais vous lire un texte, ça prend 1 minute 40. Je l'ai minuté, ne vous inquiétez pas. Mais juste un court texte médical sur la définition du stress et du principe qu'on appelle d'homéostasie. L'homéostasie, les deux mots parlent de rester constant. La notion de stress a été introduite au début du 20e siècle par Hans Selye, endocrinologue canadien d'origine autrichienne qui a démontré ses répercussions sur la santé, ses théories sur la réponse de l'organisme à des agents stressants physiques, environnementaux ou psychologiques ont révolutionné la compréhension des causes et mécanismes des maladies et mis en évidence les liens entre le cerveau, les émotions et le corps. En 1956, il a écrit un classique, « Le stress de la vie ». Par ce livre, il a enrichi la recherche de nouveaux concepts diagnostiques. Le syndrome général d'adaptation, c'est-à-dire l'ensemble des réponses de l'organisme soumis à des contraintes, changements de son environnement, traumatisme, choc émotionnel ou relationnel, choc post-trauma, changement violent. Le stress fait ainsi son entrée dans le répertoire des maladies du monde moderne et de la langue française. Le stress est un phénomène naturel qui se produit chaque fois que nous devons faire un effort pour nous adapter aux sollicitations ou aux changements de notre environnement, comme en ce moment avec la COVID. Cela se traduit par un ensemble de modifications physiologiques, biologique et même psychologique. C'est tout un impact. Le stress correspond à un bouleversement de l'équilibre de l'organisme et à une rupture de principe d'homéostasie causée par le changement. L'homéostasie, combinaison des mots grecs signifiant « rester constant », est le mécanisme de protection de tous les êtres vivants envers une modification de l'environnement. Et dans un processus agile, un cycle adaptatif est le suivant. Voici ce qu'on doit faire pour rétablir, percevoir, identifier et comprendre un changement dans l'environnement, en détecter et reconnaître les répercussions présentes et futures sur l'équilibre du système, vivre toutes les étapes du stress, du deuil, du changement violent d'une situation disparue ou en voie de l'être, les phases homéostatiques, en évitant de s'apesantir sur chacune d'entre elles et parvenir à l'ultime étape du deuil ou de la perte due au changement, l'acceptation, la réparation, ce que Boris Cyrulnik nomme la résilience. Modifier le paradigme et la représentation que le système a de son équilibre. Imaginer, visualiser, verbaliser, construire ce qui pourrait être le nouvel équilibre. Alors peuvent se mettre en œuvre des actions d'adaptation afin de transformer le système pour faire d'une menace perçue une opportunité ou de saisir à développer à coup sûr une chance qui s'offre. Nous pouvons, alors que tout est changé dans ce qui était régulier dans nos vies, nous pouvons subir les changements causés par la pandémie. Nous pouvons en souffrir seulement ou nous pouvons les saisir. Il y avait une ancienne constance qui nous a été enlevée, mais nous devons établir, rétablir une nouvelle constance. Je le répète, la stabilité pour vous, pour vos familles, pour vos enfants, une nouvelle constance. Le prévisible, la routine, est un important réducteur de stress. Comprenez qu'une des raisons pour lesquelles nous sommes si stressés dans nos pensées en ce moment, c'est que tout a été changé. Tout ce qui était notre cadre, tout ce qui nous rassurait, nous qui sommes homéostatiques, qui sommes bien dans le constant, tellement de choses ont changé. Tout a été perturbé, les perturbations, les pertes, les peurs. Il n'y a plus rien qui est pareil. Les enfants, leur matin, c'était tout ce qui était connu. Je me lève le matin, je me prépare, j'ai mon petit lunch, je mange, je m'en vais avec mes amis, j'en vais en autobus, on s'en va à la garderie, on s'en va à l'école. Ça, c'est mon enseignante, ça, c'est mes amis, ça, c'est ma récréation, ça, c'est mes sports, ça, c'est l'heure que je reviens, ça, c'est comment on soupe, ça, c'est lundi, ça, c'est mardi, ça, c'est le week-end. Il n'y a plus rien qui est stabilisé chez les enfants et chez les adultes. La routine a été, et en plus, c'est que non seulement elle a été changée, mais elle est en continu, en évolution continuelle avec rien de certain de l'autre côté. Nous avons besoin de créer des nouvelles régularités pour stabiliser. L'Ecclésiaste le dit de cette façon, la régularité va réduire le stress, la constance va calmer, le prévisible prépare la paix. Ecclésiaste 3, 17, il y a un temps pour toute chose. Et pour toute œuvre, un temps pour toute chose, et toute œuvre sous les cieux. Un temps pour, il y a toute une liste de, il y a un temps, rachetez le temps, soyez sages, soyez intelligents, semez à la paix à chaque jour. Considérez attentivement vos journées, a dit l'apôtre Paul. Considérez vos journées attentivement, car les jours sont, rachetez le temps, car les jours sont difficiles. Je vous rappelle que Paul a aussi dit dans ce même texte, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche, du asotia, c'est du déstabilisant. Et c'est important de s'en rappeler à une époque où en ce moment, on nous dit que depuis le début de la COVID, 18,5% des Québécois avouent avoir augmenté de manière significative leur consommation de boissons, d'alcool et de cannabis. Pendant la pandémie et hors pandémie, il y a un temps pour toute chose. Il y a des journées qui doivent être régularisées. Un temps pour toute chose. Ecclésiaste 3 nous dit, il y a un temps pour naître, un temps pour toute chose. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour rire, un temps pour pleurer. Un temps pour semer, un temps pour arracher. Il y a des choses à arracher de nos vies. Il y a des choses à enlever en ce moment, à déraciner pour rétablir la paix. J'ai souri lorsque j'ai lu que dans l'Ecclésiaste des millénaires passés, il est écrit, « Il y a un temps pour s'embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Il y a un temps pour la distanciation, comme nous sommes dedans en ce moment. Un temps pour garder, un temps pour jeter. Un temps pour se taire et pour parler, pour rire, pour pleurer. Un temps pour se lever, un temps pour se coucher. Un temps pour servir, travailler. Un temps pour se reposer. » Ecclésiaste, la version chapitre 3 de l'Ecclésiaste, un temps pour toute chose, déterminer un déroulement régulier à vos journées en 2020. C'est à quelqu'un, et à chacun d'entre nous, mais à quelqu'un, je veux dire, lève-toi le matin à une heure normale, habille-toi, douche-toi, peigne-toi, rase-toi, rétablis un horaire à ta journée. Voici l'heure où je me lève. Voici l'heure. Si vous êtes en confinement avec les enfants à la maison, on va organiser un horaire de journée. Voici ce qu'on fait. Voici la journée qu'on va avoir. À ce moment-là, on travaille. À ce moment-là, on va prendre une promenade. À ce moment-là, on déjeune. Faites les repas aux heures fixes. Faites le dodo à heure fixe. Vous-même, comme adulte, même si vous êtes en télétravail, le télétravail peut devenir que tout, c'est juste un sans fin de boulot. Mettez des heures. Ça, c'est mes heures de travail. Ça, c'est les heures pour la famille. Ça, c'est les heures pour Dieu. Ça, c'est mon café matinal avec Pasteur Claude. Ça, c'est ma vie spirituelle. Ça, c'est le temps où je vais être dans la parole. Ça, c'est le temps où le dimanche matin, on est en famille. Il y a quelqu'un qui m'a écrit tous les dimanches, on est en famille. On regarde la réunion. On prie ensemble et avec deux, trois autres familles par la suite, ils font un Zoom où ils discutent la réunion. Reprenez contrôle de votre horaire parce que la paix dans les pensées vient dans une détermination, un déroulement régulier à vos journées. Un déroulement régulier à vos journées. Déterminez qu'il y a un temps pour chaque chose. Deux anecdotes très, très, très terre à terre, mais qui pour moi illustrent beaucoup. Il y a une petite fille dont nous sommes papy et mamie de répit. Elle vient faire un tour chez nous cycliquement, on donne un petit repos à la jeune maman. Et là, depuis le début du confinement, on n'a pas pu la voir en personne. Et ça fait maintenant 2 mois. Et sa maman a appelé récemment vers 19h et elle dit, écoute, à mon époux Chantal, la petite est excitée, la petite, toute l'horaire est chamboulée. Et Chantal a commencé à lui parler, ils étaient en Skype ou en FaceTime avec chacun leur tablette, ils se voyaient. Et tout à coup, Chantal a eu l'idée, elle a dit, OK, c'est l'heure du dodo. Et lorsqu'elle venait chez nous, on monte en haut, elle a sa chambre, et Chantal lui lisait une histoire. Et là, Chantal a dit, OK, viens avec mamie, va-t'en dans ton lit chez toi. Mamie, viens, ça va dans ta chambre. Elle est allée se coucher dans sa chambre, en haut, là où la petite était, et il lui a lu, on a rétabli une dimension de routine, rétabli une dimension d'ordre. Et il y a un apaisement qui a pris place. Au moment où on enregistre cette prédication, elle va être vue pendant des semaines et des mois par la suite, mais les terrains de golf se sont réouverts au Québec. Les terrains de golf sont ouverts maintenant dans la province de Québec et il y a plein de golfeurs qui vivent des moments extraordinaires. Et il y a un monsieur qui m'a écrit cette semaine et je ne nommerai ni sa profession ni rien pour que personne des Nouvelles Vies l'identifie, mais c'est un témoignage qui m'a touché parce que c'est un homme que hyper cartésien, un monsieur super solide, un monsieur pas émotionnel pour 2 sous, cartésien. Puis il m'a dit, Pasteur Claude, c'était bizarre. On est allé jouer au golf et je jouais au golf avec mon fils, avec mes 2 fils. Alors, les 2 fils avec le père et qui n'avaient pas, s'étaient pas vus en personne depuis des mois. Puis j'étais sur un terrain de golf. Non seulement j'étais heureux d'être là, mais il dit, vous allez penser que je suis fou, Pasteur Claude. Les larmes me sont venues aux yeux. J'étais tellement bien. J'étais tellement émotionnel. Comment ça se fait que je suis émotionnel comme ça? J'ai les larmes aux yeux sur le terrain de golf. Et moi, je lui ai dit qu'il m'est arrivé souvent d'avoir le goût de pleurer sur un terrain de golf, mais pour d'autres raisons, à cause de la piètre qualité de mon jeu. Mais je crois qu'il y a quelque chose de plus profond là-dedans. Il y a littéralement le rétablissement d'un tempo. Il y a une certaine normalité à ce que nous revenons. Il y en a certains d'entre vous qui avaient tout balancé depuis que vous êtes en arrêt. Et c'est un contributeur à votre stress. Vous avez besoin aujourd'hui de vous arrêter. De dire, Seigneur, aujourd'hui, aide-moi à déterminer un déroulement régulier à mes journées et la dernière pensée. Et aide-moi à délimiter ce à quoi je vais être exposé. Délimiter ce à quoi je vais être exposé. On regarde ensemble à Jacques, chapitre 1 et le verset 25. « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, dans cette parole qui donne la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, être ouvert à la parole, mais être oublieux de la parole sans se mettre à l'œuvre et lui obéir, n'apporte aucun apaisement dans les pensées. Mais celui qui est ouvert à la parole, celui qui la reçoit et celui qui est obéissant de se mettre à l'œuvre, celui-là, se mettant à l'œuvre, sera heureux, trouvera la paix dans son activité, celui qui aura plongé les regards dans. » C'est une des questions les plus importantes pour le rétablissement des pensées. Dans quoi est-ce que vous allez plonger vos regards? La notion de délimiter veut dire déterminer, en traçant des limites, marquer les limites des frontières afin d'identifier et de protéger, de délimiter. Délimiter ce que je regarde va déterminer mes réactions, va déterminer mes réponses au stress, va déterminer mes ressources et ma résistance dans le combat spirituel. Parce qu'il y a un combat spirituel. L'apôtre Jacques, je vais vous lire un texte dans Jacques. On va lire les 3 versets un après l'autre. Simon, Jacques, chapitre 3, 14 et 15. « Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, des pensées d'amertume, de dispute, ne vous glorifiez pas, ne vous mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Il y a une progression-récession. Il y a un combat qui prend place. La tour de contrôle, c'est nos pensées. Le champ de bataille, c'est nos pensées. Et ce qui est à la base humain, qui est à la base terrestre, qui est à la base charnelle, s'il n'y a pas de délimitation à ce à quoi je m'expose, peut devenir tout simplement inspiré par l'ennemi lui-même, par le démoniaque. Car là où il y a un zèle amer, des pensées de dispute, il n'y aura jamais seulement des pensées. Elles vont devenir des paroles, elles vont devenir des actions, du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La pensée devient des attitudes qui deviennent des actions, délimitées afin de devenir. Alors, c'est une question. dans quoi est-ce que je puise, que je plonge mes regards depuis le début de cette pandémie? En quoi est-ce que je plonge mes regards depuis le début de cette pandémie? Vous savez, nous avons appris beaucoup de choses sur les lois de contamination, de contagion, de comment nous communiquons ou nous contractons le disease, le virus. On apprend des choses qui sont affolantes. On a appris que nous touchons nos visages en moyenne 2 à 3000 fois par jour, 3 à 5 fois à la minute, l'être humain moyen. Et nous touchons par la suite toutes sortes de choses. C'est comme ça que la contamination se fait. Mais est-ce que vous savez, est-ce que vous réalisez que vous avez plus de 25 000 pensées par jour et que chacune de ces pensées-là touche à tout? Touche à vos émotions, à vos motivations, à vos actions, à vos interactions, à vos décisions, comme un homme pense, ainsi sera-t-il. Comme un homme pense, ainsi sera-t-il. Mes pensées vont déterminer mes actions, mais ce que je regarde va déterminer mes pensées. Ce que tu consommes va configurer tes pensées. Tu seras diminué, dilapidé, tu vas être démoralisé, découragé, désespéré. Tu vas aller à la dérive si tu n'as pas appris à délimiter tes pensées. Écoutez Jésus. Matthieu chapitre 6, versets 22 et 23. L'œil, les regards, ce que tu permets d'entrer, ce que tu consommes, ce à quoi tu t'exposes. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tu prends soin de ce que tu regardes, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Si tu laisses ce que tes yeux vont regarder, vont devenir ce que tu vas penser. Ce que tu vas penser va devenir ce que tu vas être, va t'habiter. Ce que tu regardes va déterminer comment tu réagis, comment tu réfléchis, comment tu réponds au stress et aux situations, comment tu résistes et refuses ce qui n'est pas de Dieu. C'est lorsqu'on pense à nos enfants la majorité des enfants qui ont grandi avec des dizaines et dizaines de milliers d'heures où la lumière, où les ténèbres à travers leurs yeux entrent dans leurs âmes, dans leur esprit, regardant des milliers et milliers d'actes violents, des jeux violents, la console, Xbox, les jeux de plus en plus graphiques et violents. Lorsqu'on pense aux yeux qui sont portés par des milliers, qui regardent des milliers et milliers de vidéos, toute cette génération qui ont grandi avec toutes ces vidéos, avec bien sûr sensualité et nudité, mais aussi avec une dévalorisation de la femme, de la femme objet, la femme hyper sexualisée à être utilisée, l'image de violence, l'image d'abus de la femme, l'image de matérialisme, d'argent sans aucun fruit de travail derrière. Lorsqu'on pense à ces millions d'heures vues par des yeux des hommes en particulier, et c'est hommes et femmes, mais majorité d'hommes qui regardent du matériel pornographique qui vient toucher chaque aspect de leur vie. Les milliers d'heures par des jeunes qui regardent leur vie sur les réseaux sociaux en comparaison et en réponse. Et en ce moment, des milliers d'heures où les yeux regardent du matériel sur différents sites web qui font la promotion de tout ce qui est révolte, de tout ce qui est conspirationniste, de tout ce qui est révolté, de tout ce qui est contraire à la pensée au cœur de Dieu. Ce que tu regardes va te réduire. Ce que tu regardes, c'est à moins que tu n'apprennes à délimiter ce à quoi vous vous exposez. À moins que vous appreniez à poursuivre les choses d'en haut. Il y a un terme informatique dans les années 70, G-I-G-O, G-J-O ou G-I-G-O, garbage in, garbage out. C'est une expression qui était utilisée beaucoup, qui voulait simplement dire que l'ordinateur ne peut seulement produire à partir de ce avec quoi il a été nourri. C'est pour ça que les Proverbes chapitre 15 et le verset 14 nous dit « Un cœur intelligent a faim de sagesse. » Pendant cette pandémie, est-ce que j'ai faim de regarder que mes yeux soient mis sur des choses sages, de sagesse, de vérité? C'est l'insensé qui se nourrit, qui s'expose à et se plaît aux choses qui sont inutiles. Un autre, le Proverbe 23, 5 et le Psaume 119, versets 3 à 7. « Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître, ce qui n'a aucune utilité? Ô Dieu, détourne mes regards des choses vaines et sans valeur. » Poursuivez les choses d'en haut. Vos regards, vos relations, ce que je regarde va déterminer ce que, non seulement ce que je regarde, mais mes relations vont déterminer est-ce que j'intoxique mon esprit, mon âme. Est-ce que j'influence? Il y a des personnes qui regardent cette prédication ce matin, qu'il y a des choses que tu regardes à la semaine longue, tu es continuellement en ligne, et qui a combien de likes et qui a combien de vues et qui a l'air d'avoir quoi et qui a l'air à regarder la vie des autres et être en comparaison, et être en jalousie et être en envie et être dans ce flot qui n'arrête jamais. Nous avons besoin de ce moment où j'ai dit, Seigneur, je veux être un cœur intelligent. Je veux me nourrir de choses qui sont selon la sagesse et selon la vérité. Je veux poursuivre. Ma poursuite va déterminer. Ce que je regarde va déterminer quel va être mon niveau de relation avec Dieu. Mais mes poursuites vont déterminer mon niveau de paix. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, nous dit Philippiens, tout ce qui est pur, tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation. Sois vertueux, qui est vertueux, digne de louange, que cela soit l'objet de vos pensées. Et l'apôtre Paul termine en disant, ce que vous avez appris, ce n'est pas quelque chose que je vous lance seulement, c'est quelque chose que j'ai vécu. Ce que je vous avais appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Le Dieu de paix sera avec vos pensées. Le Dieu de paix viendra vous apaiser. Il régnera dans vos pensées. Le test, êtes-vous prêt à faire passer le test de tout ce que vous regardez, de tout ce que vous vous exposez, ou le test de Philippiens 4? Est-ce que c'est selon la vérité? Est-ce que c'est selon ce qui mérite l'approbation, qui est l'objet de mes pensées? Si je vous demandais, combien d'entre vous vraiment vous croyez 100%. Vous croyez que 100% de ce que vous lisez, entendez aux nouvelles, ou 100% de ce que vous lisez sur Internet, que vous voyez sur les médias sociaux, est vrai? Je pense que la majorité dirait, bien non, je sais bien que ce n'est pas 100% qui est vrai. Si je demandais à chaque chrétien qui regarde cette prédication, combien d'entre vous croyez, est-ce que tu crois que 100% de ce que la parole de Dieu dit est vrai? Alors pourquoi? Poursuivrais-tu continuellement, t'exposerais-tu à ce qui est inutile? Il y a quelque chose de puissant, je vais terminer avec ça. L'apôtre Paul dit, c'est le combat des pensées qui va tout déterminer, c'est cette décision de dire, Seigneur, je veux délimiter ce à quoi je m'expose. Sans cette délimitation, cette détermination de mes journées, sans cette délimitation de ce à quoi je regarde, je m'expose, il n'y a pas de victoire dans mes pensées. Et il a communiqué ce message-là. Il y avait une communication spirituelle importante. Cette semaine, le monde chrétien en entier est dans le deuil lorsqu'on a appris le décès d'un homme de Dieu extraordinaire qui a touché les nations, Ravi Zacharias, qui est décédé à l'âge de 72 ans. Un homme de Dieu absolument extraordinaire, un des plus grands apologistes de notre époque, auteur de plusieurs dizaines de livres. Il a passé sa vie sur les campus universitaires à défendre la foi, à expliquer, à articuler la foi d'une manière absolument magnifique. Et il est décédé cette semaine. C'était un des plus grands penseurs chrétiens de notre génération. Et je regardais encore cette semaine, il y a plusieurs interviews de lui, messages de lui. Moi, j'étais abonné à son site où il y avait toutes sortes de podcasts et de messages. J'ai écouté des centaines de prédications de Ravi et des messages. J'ai lu ses livres au fil des années. Il est appelé par plusieurs. Il était avec un intervieweur, c'était très intéressant, qui lui disait, on dit de vous que vous êtes un des plus grands penseurs de votre génération. Et avec un sourire très humble, il a dit, peut-être, mais je suis surtout un des pires, one of the worst thinkers. Un des pires penseurs de ma génération. Alors, l'intervieweur dit, il va falloir que vous m'expliquiez ça parce que vous êtes un des plus brillants penseurs. Et il a expliqué que, parce que l'autre question était, quel a été un des plus grands combats de votre vie? Puis il a dit, il n'y a même pas de deuxième place. Il y a le plus grand combat de ma vie est le combat de mes pensées. Ravi Zacharias a donné sa vie au Seigneur sur un lit alors qu'il était dans des études, des plus hautes études, en doctorant en philosophie, avec des notes hallucinantes sur des bourses dans les meilleures universités, mais complètement tourmenté, a fait une tentative de suicide où il a passé un cheveu de la mort, et sur son lit d'hôpital, les pensées tourmenté, sa vie entière est un tourment, malgré toute son éducation, son intelligence, malgré toute sa culture, malgré toute sa connaissance. Et Ravi était sur son lit d'hôpital, et un chrétien a commencé à venir le visiter, puis il y a un texte d'une simplicité extraordinaire, mais illuminé par Dieu, qui a changé sa vie dans l'Évangile de Jean. Ravi, c'est ce qu'il a mis lui-même quelques jours avant son décès, le texte de l'Évangile de Jean, où il est écrit « Parce qu'il vit, je vivrai aussi ». Parce que Jésus est mort et ressuscité, il va me donner victoire. Il va me permettre de vivre. Et Ravi a dit, du début de ma vie chrétienne jusqu'à la toute fin de ma vie chrétienne, c'est le combat de mes pensées qui a été le plus grand combat de ma vie. Et l'intervieweur de lui demander qui a été le plus grand mentor d'influence dans votre vie et quel a été son message le plus important pour vous. Puis encore une fois, sans hésiter, Ravi parle de Malcolm Muggeridge. Et Malcolm Muggeridge, qui était un missionnaire aux Indes, qui était un professeur de philosophie et de théologie, un docteur émérite, était son espèce de mentor. Moi, j'ai entendu Ravi raconter cette anecdote avec laquelle je termine ce message. J'ai entendu raconter cette anecdote lorsqu'il était dans la quarantaine, cinquantaine, soixantaine. Et cette interview était il y a quelques années, à l'âge de 70 ans. Et il raconte encore cette anecdote que dans une grande transparence, Malcolm Muggeridge avait partagé avec Ravi ceci, que lorsqu'il était missionnaire aux Indes, à toute sa vie, à ce moment-là, pour se préparer pour ce voyage, c'était le rêve de sa vie avec sa jeune épouse. Ils n'ont pas d'enfant encore. Il s'en va aux Indes pour être un enseignant dans un institut de théologie là-bas. Et il est sorti de sa routine normale. Il est sorti complètement déconnecté de tous ses repères. Et il enseignait le soir, puis avait ses journées. Puis a pris l'habitude, en arrivant là-bas, le matin, c'était le rêve de sa vie d'être un missionnaire aux Indes. Puis il est allé plusieurs années, plusieurs fois par la suite. Mais au tout début, tout jeune. Et Malcolm Muggeridge a eu cette humilité de partager ce moment de sa vie avec Ravi, puis ça a marqué la sienne. Comme Paul qui dit, ce que tu m'as vu faire, je vous le communique, je l'ai pratiqué pour que la paix de Dieu soit avec vous. Et Muggeridge raconte qu'il allait le matin sur le bord de la rivière Gange aux Indes, et un jour, avec sa Bible, pour prier, se préparer. Et lorsqu'il a un jour est arrivé sur le bord de la rivière, et il a vu une femme de l'autre côté. Une femme qui se baignait avec le soleil qui descendait, un groupe de femmes, une femme seule qui venait chaque jour et qui se baignait et qui enlevait son voile. Et il ne la voyait pas bien de loin, mais il la voyait se dénuder et elle glissait pour aller dans l'eau. Ce regard, la première journée, a fermé sa Bible et est parti, mais il est revenu le lendemain. Elle était là. Et elle le regardait et se regardait de l'autre côté de la rivière. Ce regard est devenu une pensée, cette pensée est devenue une obsession, cette obsession est devenue un tourment. Et Muggeridge, tourmenté de jour en jour, et on ne sait pas, je ne me souviens pas combien de temps ça a duré, mais un jour, ce qui était que pensée, il était là sur le bord et lorsqu'il a vu qu'elle descendait dans l'eau, il était complètement hors caractère, c'était fou pour lui, mais la pensée s'est enracinée en lui et il s'est engagé dans l'eau lui aussi pour aller lui parler. Et lorsqu'il s'est avancé, elle, qui était sous le soleil, elle était tellement magnifique, et lorsqu'il s'est approché, lorsqu'il est arrivé proche d'elle, a réalisé à son horreur que la femme était complètement dévorée par la lèpre. Elle était dévorée par la lèpre, et lorsqu'il l'a vue, il a fait quelques pas par en arrière, et il a dit, il y avait le courant, il dit, c'est comme si, pendant une seconde, j'avais tellement honte, j'étais tellement sale, j'étais tellement déçu de moi-même, j'étais tellement horrifié, j'avais le goût de juste me laisser partir par le courant. Et lorsqu'il est revenu, il dit à quel point la pensée peut être mensongère, à quel point ce qui lui semblait, tout ce qui était beauté, ce qui était si attirant de loin, était en fait souffrance et laideur. Et il en a parlé avec son épouse, il en a parlé avec ses conseillers à l'époque et tout ça. Et Muggeridge a resté marqué avec ça toute sa vie. Et la phrase qu'il disait toujours à ses élèves, « Where you look will determine what you love, where you live, and what your life will be. » Ce que tu regardes va déterminer ce que tu vas aimer et ce que tu vas, où tu vas en être dans ta vie et ce que tu vas accomplir dans ta vie, ce que ta vie va être. Et il y a quelques années, si on est capable de revenir à Ravi, il y a quelques années, Ravi Zacharias le racontait encore avec beaucoup d'émotion. Puis j'ai passé ma vie avec ce sens que le plus grand combat de ma vie est le combat des pensées. Mais à chaque jour de ma vie, je veux poser mes regards vers Dieu. Puis à chaque jour de ma vie, et je veux dire maintenant, moi avec émotion, à la famille de Ravi et à tous ceux que, bien fait, bon et fidèle serviteur. Tu as gagné le combat de la foi. Tu as gardé ton cœur, tes yeux et tes pensées jusqu'à la fin. Maintenant, entre dans la joie de ton maître. Et aujourd'hui, je veux faire un appel à toi et à lequel je réponds moi-même dans ces derniers moments où nous disons ensemble, Seigneur, j'ai besoin de m'approcher de toi dans le combat de mes pensées. Seigneur, j'ai besoin, je veux te demander, Seigneur, de m'aider à développer, Seigneur, ce sens de mes journées devant toi, de ne pas laisser les choses dériver de tous les côtés, mais de considérer attentivement mes journées afin que je puisse racheter le temps car les jours sont difficiles. Et Seigneur mon Dieu, je veux délimiter ce que vont être mes pensées. Comme un homme pense, ainsi sera-t-il. Je suis ressuscité avec toi, mais je veux porter, fixer mes yeux, mon cœur, mes affections sur les choses d'en haut, sur celles qui sont pures, sur tes promesses, sur ta paix, sur ta fidélité, sur ta bonté, sur ton pardon, sur tes plans, sur tes commandements que je veux que tu écrives, qui entrent dans mes yeux, dans mon cœur, dans mon âme à chaque jour afin que je puisse marcher dans la paix, que les méditations de mon cœur soient agréables devant toi. Et ensemble, Seigneur, s'il y a, et je sais qu'il y en a, des personnes qui sont assaillies par des pensées suicidaires, des pensées de découragement, des pensées de révolte, des pensées d'injustice, des pensées de comparaison, de jalousie, des pensées d'anxiété. Nous te demandons, mon Dieu, qu'ils puissent tourner leur regard, leur cœur vers toi, qu'ils puissent se revêtir de toi à chaque jour, tourner leurs yeux vers toi, leur cœur vers toi, nourrir leurs âmes, leurs esprits avec toi. Et le Dieu de paix peut encore aujourd'hui. Je prends autorité en ton nom, Seigneur, aucune autorité en moi-même, mais par ton nom, autorité contre toute pensée suicidaire, toute pensée dépressive, toute pensée que cette dépendance est ta vie, que tu ne pourras jamais en être libéré, toute pensée de découragement, de colère, d'amertume, sans pardon, de comparaison. Ô mon Dieu, viens nous remplir de tes pensées aujourd'hui. Notre secours est en toi. Notre paix est en toi, nos pensées sont sur toi et nos cœurs sont sur toi, dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen et Amen. Joignez-vous à l'équipe d'Impact en ce moment et prenons un instant pour dire, Seigneur, mon secours est en toi.